Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'atelier des médias sur RFI. Cette semaine, nous sommes avec un jeune homme au parcours hors du commun. Il a successivement vécu en Inde, à Dubaï, aux États-Unis, au Congo et au Rwanda. Il est actuellement basé en Asie du Sud-Est. Il n'a pas été aisé d'organiser l'entretien qu'il a accordé à Constance Léon de l'Atelier des médias. Elle l'a interviewé en utilisant un service de téléphonie par Internet, ce qui explique le son légèrement distant de l'émission d'aujourd'hui. Mais vous allez voir, c'est sans effort qu'on écoute la voix singulière d'Anjan Sundaram.
J'étais né en Inde et en 1983, deux mois à peu près après ma naissance, j'ai bougé à Dubaï où j'ai grandi pendant les premiers 10 ans de ma vie. Mes parents travaillaient à Dubaï. Mon père était comptable, ma mère aussi journaliste, enseignante. Et à l'âge de 10 ans, je suis parti en Inde dans une école résidentielle. J'ai passé comme 7-8 ans en Inde, de 10 à 18. Ensuite, je suis allé aux États-Unis, à l'université de Yale, pour étudier les mathématiques. J'ai fait un petit stage en France, à Paris, en étudiant la mathématique aussi. Et quand je suis arrivé à Yale, j'avais déjà fait un an d'études en Inde, un an d'études universitaires en ingénierie. Et quand je suis allé à Yale, je voulais vraiment essayer toute autre chose. Je voulais essayer la photographie, l'anthropologie, la sociologie, la littérature, toute autre chose. Mais en fin de compte, je suis tombé encore dans les mathématiques. Et il y avait un professeur français, Serge Lang, qui était un professeur assez connu, surtout pour ses textes. Ses textes sont devenus des classiques dans les universités pour enseigner l'analyse, l'algèbre et la base de la mathématique. Et je suis devenu assez proche à lui. Et il m'a vraiment influencé dans le sens qu'il me faisait progresser en mathématiques plus vite que les cours allaient. Quand je comprenais des choses, il était excité à m'enseigner. Il était un vrai professeur. Il avait aussi un côté activiste qui m'a parlé. Serge Lang écrivait comme des douzaines de lettres chaque semaine pour manifester contre quoi que ce soit, contre la guerre en Irak ou le traitement des homosexuels aux États-Unis. Il avait participé dans les manifestations à Berkeley dans les années 60 et 70. Et on partageait plusieurs choses. On partageait non seulement la mathématique, mais aussi un esprit de liberté, un esprit indépendant, on pourrait dire. Et j'étais un peu déçu par la mathématique. Je croyais que la vie solitaire d'un mathématicien n'était pas pour moi. La mathématique aussi paraissait très divorcée de la vie du monde réel. C'était quasiment comme un art, on pourrait dire. Les mathématiciens faisaient la mathématique pour sa beauté et non parce que ça avait un lien avec le monde. Et c'était ce lien qui me manquait, on pourrait dire.
Les mathématiciens exercent leur art pour sa beauté. C'est cela qui dérangeait Anjan Sundaram, brillant étudiant d'une des plus prestigieuses universités américaines. Jeune homme probablement destiné à de hautes fonctions dans la finance, la banque ou la recherche. L'art pour l'art n'intéressait pas cet idéaliste et c'est la lecture d'un court article qui allait être le déclencheur de sa nouvelle vie.
J'étais dans mon dernière année à Yale, dans la cafétéria d'étudiants. Et il y avait un journal, le New York Times. J'ouvrais le journal et au milieu du journal, en bas du page, il y avait un petit article qui parlait du Congo, qui disait qu'il y avait à l'époque 4 millions de morts. Et l'article était tellement petit et parlait de choses tellement énormes. La guerre qui a tué des millions de gens, la famine, les réfugiés, la vie des gens bousculée totalement. Et ça m'a frappé comment ces choses énormes étaient décrites dans un article tellement petit. Et quelque chose me paraissait bizarre là-dedans. C'était en partie à cause... ça, c'était le début, on pourrait dire. C'était en partie à cause de cet article que j'ai commencé une démarche de comprendre qu'est-ce qui se passait au Congo, pourquoi ce n'était pas décrit dans la média. Pourquoi le New York Times, un des journaux principaux des États-Unis accordaient tellement peu d'espace aux événements tellement violents. Et une chose est passée à l'autre et je suis finalement, à la fin de mes études, j'ai acheté un billet aller simple à Kinshasa pour devenir journaliste. Je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire là-bas, mais j'avais cette conviction que les choses que je voyais devraient être des nouvelles. Je suis dans l'exil comme fable. Ils ont pris mon histoire pour une fable. Pour distraire bataille et fontaine, me réduire à un cas d'espèce, un spécimen naïf, comme l'art des natifs, du pays des grands lacs, semé de récifs. Mon récit abrasif travaille le motif en guise de travaux d'intérêt collectif. C'est pas la thérapie en musique par défaut pour les thèses des descendants de Dolto. Slalom entre les bombes lacrymales, le ressentiment et la haine viscérale. J'ai appris de mes erreurs pendant l'intervalle pour retrouver le toucher initial. Ma détermination est intrinsèque car la maison n'accepte pas l'échec. À l'époque, j'étais très idéaliste, j'avais 22 ans, je venais de terminer mes études. J'avais jamais publié un article journalistique dans ma vie. J'étais très influencé, on pourrait dire, aussi par des articles et livres écrits par Ryszard Kapuściński, un écrivain et journaliste polonais. Le journalisme, c'est d'être témoin. Et Kapuściński, dans une de ses entrevues, il décrivait les guerres dans les années 60-70, pendant la guerre de libération africaine. Il décrivait comment il était témoin aux révolutions, aux coups d'État, l'histoire de l'humanité, comme il décrivait. Et il remarquait qu'il n'y avait, pas de philosophes, pas de poètes, pas d'écrivains, très peu de journalistes là-bas. Il était quasiment seul la plupart du temps. Et quand j'ai interrogé des journalistes que je connaissais, ils me décrivaient que la même situation en Afrique actuellement. Et je crois que c'est toujours un peu le même. Il y a de grands, grands événements qui se passent en Afrique. Et dans d'autres endroits aussi au monde, mais en Afrique, c'est un peu aigu, la situation. Il y a des grands événements et ce n'est pas assez couvert par la nouvelle, par les médias. Et pour moi, tout simplement, d'être témoin de ces événements me paraissait important. Il y avait tellement de vies humaines bousculées, changées, qui se passaient inaperçues. Et il y avait quelque chose de triste là-dedans, pour moi. Et je crois que j'ai commencé juste comme ça. J'étais aussi jeune et j'avais plein d'autres motivations. J'étais séduit par le prospect du voyage, d'aller dans les zones lointaines où les gens n'allaient pas. J'avais ce goût d'aventure. Il y avait vraiment beaucoup de motivation à l'époque. Et c'était en devenant journaliste au Congo et surtout, je dirais, en travaillant au Rwanda 5 ans plus tard avec des journalistes rwandais que j'ai commencé à comprendre l'importance du journalisme et l'importance du journalisme pour rendre compte, rapporter sur des abus de pouvoir, surtout sans une presse, une presse indépendante. On sait très très peu et les autorités, ceux qui ont le pouvoir, peuvent faire des choses énormes, peuvent abuser leur pouvoir pour causer beaucoup de souffrance. Et ça, j'ai vraiment appris au Rwanda. Mais alors, c'était une expérience différente. C'était une combinaison de mes expériences au Congo et au Rwanda qui m'a beaucoup appris sur le journalisme.
Kinshasa jusqu'au cou, Anjan Sundaram. J'avais rompu avec l'Amérique. Le Congo me consumait. Après le monde paisible des mathématiques, je ne ressentais ici que de la fugacité et de la peur. Je devais sans cesse me frayer un chemin, me faire une place. La foule autour de moi était écrasante comme la pierre d'un moulin, parfois hurlante et rugissante, tourbillonnante et muette à d'autres moments. Une certaine volatilité paraissait se détacher sur le sol noir. Il me semblait impossible de se sentir chez soi. La guerre du Congo était la pire que le monde ait connue au cours des 50 dernières années. Elle avait déjà fait plus de 5 millions de victimes. Cette guerre monstrueuse, débordante d'histoires de viols et de massacres, avait atteint une disproportion telle qu'elle en était devenue absurde. Les gens peinaient à trouver les mots pour décrire le conflit et l'appelaient désormais, malgré la contradiction dans les termes, la guerre mondiale africaine, pour rendre compte du nombre d'armées qui s'y étaient engagées et surtout de l'ampleur des tueries.
Anjan Sundaram, comment est-ce que vous êtes préparé à partir en République démocratique du Congo ?
Wow, bon, je ne me suis pas trop préparé. J'ai lu quelques livres. J'avais en poche un livre d'histoire sur l'Afrique. Je parlais avec certains journalistes. Je me souviens, il y avait un journaliste qui était passé par Yale, qui avait une chaîne de télévision maintenant à New York. C'était quand je suis allé lui voir que sa secrétaire m'a donné l'entrevue de Kapuscinski qui a tout changé pour moi. Je suis allé à New York, à Manhattan, pour lui rencontrer. Je ne le connaissais pas, je voulais juste quelques conseils. Et je me souviens, je suis allé au 40e étage du skyscraper, du gratte-ciel. Je suis arrivé à son bureau et il était en retard, il avait une autre réunion. Et sa secrétaire était tellement gênée par le retard, qu'elle m'a donné cette entrevue de Kapuscinski. Elle m'avait dit que... Elle a lu mon email, elle a vu que j'allais voyager en Afrique et elle croyait que ce journaliste m'intéresserait. Et j'ai rencontré Stephen Brill, il s'appelait le journaliste américain. Il m'a donné de très bons conseils. La chose que je me souviens, il m'a dit quand tu critiques quelqu'un, il faut toujours parler à la personne critiquée. Il faut toujours donner la parole à la personne critiquée. Et ça paraît très simple, mais c'est très souvent oublié. Pour moi, c'était un très bon conseil. Et quand j'étais dans le train, retournant à Yale, de son bureau, c'était là où j'ai lu l'entrevue de Kapuscinski qui m'a tout changé. Kapuscinski utilisait son travail avec les agences de presse pour lui rendre aux endroits très intéressants où les vraies histoires se passaient. Et j'avais cette même ambition, on pourrait dire. Je voulais trouver un boulot comme journaliste pour devenir témoin, pour aller voir, pour me rendre aux endroits où je ne pourrais pas me rendre normalement, et pour voir l'histoire d'humanité devant mes yeux, pour le comprendre, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. Il faut aussi dire que j'ai grandi dans une famille immigrante économique. Mes parents sont partis de l'Inde à Dubaï pour des raisons économiques, pour faire de l'argent. Et ils m'ont toujours guidé vers les pays du succès, l'Occident, on pourrait dire, les États-Unis, l'Europe. C'était toujours assumé que j'allais m'installer dans un pays occidental pour devenir un succès, ce qu'ils considéraient un succès. Et ils m'ont toujours comme un peu protégé des endroits comme le Congo, des endroits, des zones noires au monde, les endroits où il y a beaucoup de violence, beaucoup de guerres. Et pour moi, aller au Congo, c'était aussi une façon d'éclaircir ce monde qui était caché de moi. Et je voulais voir le monde entier dans toute sa richesse et sa tristesse et sa joie. Et aller au Congo, c'était pour compléter mon monde, dans une certaine façon.
Nous sommes en 2005. Anjan Sundaram va voir son professeur de mathématiques, Serge Lang, et lui annonce qu'il part au Congo, un pays qu'il ne connaît que par les livres, les articles de presse et les conversations avec des journalistes ou des Congolais vivant aux États-Unis. Quand Anjan arrive pour la première fois en République démocratique du Congo, à l'aéroport de Kinshasa, une famille l'attend à la sortie de l'avion.
Il faut aller un peu en arrière pour comprendre ça. Quand je payais ma dernière facture à Yale, la femme à la caisse était africaine et quand j'ai su par son accent, et quand je lui ai dit que j'allais au Congo, je pourrais aller au Congo, elle a commencé à rire. Elle m'a dit, vous étudiant de Yale, vous êtes tellement stupide. Tu vas aller au Congo, tu seras comme tué ou violée, quelque chose de très grave va arriver à toi. Et elle m'a déconseillé d'aller au Congo. Et peu à peu, je suis devenu ami avec elle. Et elle travaillait pendant les nuits dans un garage, dans un parking à New Haven, aux États-Unis. Et finalement, elle a accepté que je puisse vivre avec sa famille à Kinshasa. Et quand je suis arrivé, c'était cette famille qui m'a reçu et qui m'a donné une petite chambre dans leur maison, très, très ordinaire, très humble, dans un quartier, le quartier populaire de Kinshasa, qui s'appelle Victoire, un quartier connu pour l'intensité de sa vie, pour la musique, pour sa musique, pour les enfants de la rue qui parcourent les quartiers, pour l'insécurité, mais qui était connu pour, et c'était aussi la base de l'opposition politique, opposition de président Kabila. Et c'était la vraie vie, c'était la vraie vie congolaise avec toute sa joie et tristesse dans ce petit quartier dont j'avais une petite chambre. Et cette chambre est devenue plus tard la base d'opération de la presse associée, l'agence de presse américaine pour qui je travaillais.
C'est donc dans une petite chambre non loin du rond-point Victoire à Kinshasa qu'Anne-Jeanne s'installe. Dans le livre qu'il a consacré à sa vie kinoise, Kinshasa jusqu'au cou, c'est son titre, il décrit son quotidien auprès de la famille qui l'héberge. Il raconte les anecdotes et aventures qui occupent ses journées, les visites de voisins, les jeunes filles intéressées par son statut d'étranger et ses dollars, le vol de son téléphone, puis celui de tout son argent liquide, l'achat enfin d'un ventilateur qui circule de pièce en pièce au sein de son nouveau foyer, puis de maison en maison dans le quartier. Il est confronté au délestage, aux coupures d'eau, aux grèves, et c'est dans ce contexte qu'il apprend le métier de journaliste et parvient à vendre des papiers à l'agence Associated Press.
J'ai commencé pendant les premiers 3 mois du journalisme, j'ai gagné très peu, j'ai vendu très peu d'histoires. La plupart d'histoires que j'ai vendues, c'était... les crashs d'avions. Il y a certaines histoires qui font toujours l'actualité et c'est surtout le mort. Et les morts dans l'écrasement d'avions, dans l'écroulement des bateaux, dans les accidents de chemin de fer. Il y a, ces histoires font toujours l'actualité et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre en écrivant ce genre de nouvelles, que j'ai commencé à apprendre comment écrire une histoire journalistique en imitant mes collègues congolais et étrangers. Je suis arrivé à Kinshasa et il y avait quand même beaucoup d'opportunités au Congo. Si j'essayais de devenir journaliste en Occident, ça serait beaucoup plus compliqué et beaucoup plus structuré. Au Congo, il y avait très peu de compétition. Quand je suis arrivé au Congo, il y avait 3 autres journalistes internationaux. Il y avait un correspondant de BBC, un correspondant pour Reuters et une correspondante pour l'agence France-Presse. Et c'était tout. Et le Congo a la taille de l'Europe. C'est un continent entier, presque. Et il y avait très, très peu de journalistes. Alors, il y avait plein de nouvelles qui n'étaient pas rapportées, qui n'étaient pas couvertes. Et il fallait juste quitter Kinshasa, voyager dans le pays. Il y avait... Et tu trouverais sûrement des histoires à écrire, des histoires incroyables. Alors c'était, pour moi, le Congo me donnait une certaine liberté pour commencer à apprendre le journalisme, pour commencer à apprendre qu'est-ce qui constituait une histoire. J'ai aussi compris comment la nouvelle était produite, comme quelles histoires font la nouvelle et quelles histoires ne faisaient pas la nouvelle. Voilà.
Courte pause dans l'atelier, restez avec nous et avec le journaliste Anne-Jeanne Sundaram. Vous écoutez l'atelier des médias, vous êtes sur RFI. Il y a 12 ans, alors qu'il vient de finir des études brillantes en mathématiques à l'université de Yale aux États-Unis, le jeune Anne-Jeanne Sundaram, 22 ans, décide de tout plaquer pour devenir journaliste. Il achète un aller simple pour Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et débarque dans cette ville dont il ne connaît rien.
le quotidien à Kinshasa était comme chaotique. Kinshasa est une ville qui fonctionne très peu. Il y a très peu de services publics qui marchent. L'électricité partait souvent, il y avait une interruption d'eau souvent. Il y avait des manifestations tout le temps. Les Congolais s'expriment beaucoup. Et la vie était comme un jeu continuel, on pourrait dire. Chaque interaction est un jeu. Et je me souviens une fois quand je suis arrivé au Congo du Rwanda. J'attendais un ami qui allait me prendre. Un Congolais m'a demandé si j'avais besoin d'un taxi. J'ai dit non, 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 j'ai un ami qui viendra me chercher. Le Congolais répondit tout de suite « Mais non, comment, je ne suis pas ton ami ?» Et ils sont comme ça, les Congolais. Ils sont toujours rigolants, ils jouent toujours. Et, c'est vraiment drôle tout le temps. On dirait que la tristesse, la pauvreté, les tragédies quotidiennes de la vie que j'ai connue, les Congolais utilisaient l'humour comme un antidote aux difficultés de la vie.
Ne viens pas gâcher mon plaisir. Tika motongi sina zane kobinao. Natiki basusi nandako.
Jamais aisé de devenir journaliste. Mais quand on quitte son pays de résidence pour s'installer à l'autre bout du monde, en Afrique, dans une ville où l'on ne connaît presque personne, sans aucune expérience professionnelle et sans contact, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne se facilite pas la tâche.
Oh, c'était 3 ou 6 mois après mon arrivée que j'ai commencé à comprendre ce que la média, la presse internationale cherchait. Et comment écrire et publier les articles selon leurs besoins. Et j'ai commencé à réussir un peu. L'agence de presse, la presse associée, finançait un petit peu mes voyages. Et j'ai commencé à pouvoir parcourir le pays pour rapporter sur les seigneurs de guerre, les pygmées, la forêt tropicale, des communautés qui vivaient très très loin de la civilisation. Les réfugiés qui retournaient au Congo. Et beaucoup de petites histoires aussi assez drôles sous certains singes, les bonobos. Et le Congo a plein d'histoires et c'est vraiment très peu compris, très peu rapporté, comme je disais. Et une fois que j'ai compris comment faire le journalisme, c'était là où j'ai commencé vraiment à m'amuser et j'ai pu me libérer dans une certaine façon, à rapporter les histoires que je cherchais quand je suis arrivé au Congo et à voir ce monde qui était tellement étrange.
Kinshasa jusqu'au cou, Anjan Sundaram. J'étais arrivé au Congo avec un a priori positif sur les hommes qui vivaient dans la forêt, car je croyais que ces gens perpétuaient des traditions millénaires et qu'ils avaient appris à vivre en harmonie avec les animaux. Mais le chef pygmée me montra que le mode de vie de ces tribus n'avait plus grand-chose de primitif. La mondialisation avait atteint ces villages sous la forme de baskets, d'armes, de cigarettes, et plus violemment encore dans ses exigences de matières premières, bois, nourriture, viande. Coupé de la forêt, le monde la consommait voracement. Les pygmées étaient acculés par ce besoin mondial. Ces tribus vivaient dans la forêt, mais elles n'appartenaient plus véritablement à la forêt. Elle ne survivrait pas au changement. Ce sujet sur la forêt, à propos duquel, dans mon excitation, j'appelais immédiatement mon rédacteur en chef, le toucha et fit le tour de l'agence. Quelques mois plus tard, il me valut un prix. Mon rédacteur chef me révéla alors pour la première fois quelque chose à son sujet. Lui aussi avait débuté sa carrière au Congo. Il était aussi parti seul à la recherche de sujets. Cela créa un certain lien entre nous. J'avais le sentiment qu'il voulait m'aider. Ce fut mon premier succès du voyage.
Je suis resté juste 1 an et demi jusqu'aux élections de 2006, les premières élections dans 40 ans pour le Congo, les premières élections libres et indépendantes depuis 41 ans, depuis que Lumumba a été élu. Parce qu'après Lumumba, il y avait Mobutu Sese Seko qui a régné sous le Congo pendant presque 32 ans. Et au bout d'1 an et demi, j'avais l'impression que j'avais vu qu'est-ce que je cherchais à voir, qu'est-ce que je voulais, ce que je voulais voir. J'avais une idée de du chaos, du mal, de la guerre là-bas. Et les élections venaient de terminer. Kabila, Joseph Kabila, était élu pendant les élections. Et ça me paraissait un moment naturel à quitter le Congo. Un nouvel chapitre commençait au Congo, un chapitre que les Congolais voyaient avec beaucoup d'espoir. Un chapitre démocratique, ils espéraient, avec plus d'égalité, plus de justice. Mais malheureusement, Kabila, il est devenu comme beaucoup d'autres présidents du Congo. Et il a pris un tour un peu autoritaire. Il règne toujours. Et cette année, il a repoussé les élections jusqu'au 2018 ou 2019, je crois. Je ne sais pas. Il me semble qu'il cherche toujours des excuses. Mais à l'époque, quand j'étais là, beaucoup de Congolais voyaient Joseph Kabila comme un symbole d'espoir, quelqu'un qui allait réunir le pays après beaucoup des années de guerre, qui allait aider les Congolais à passer à une autre époque, une époque de reconstruction et d'espoir. Et il me paraissait que mon moment pour partir était arrivé. J'étais aussi très fatigué. Couvrir la guerre, aller dans des zones lointaines, couvrir les manifestations d'opposition, vivre la victoire avec cette famille. J'essayais de m'immerger dans la vie congolaise. Et c'était quand même une vie très différente de ce que j'ai connu et ce que je savais. Oui, j'étais juste fatigué. Je sentais que je voulais m'approcher le plus possible à leur expérience, à l'expérience de la guerre, qui n'est pas seulement triste, qui a beaucoup de joie aussi. Les Congolais trouvent de la joie dans leur tragédie, dans les choses très banales, dans la banalité de la vie. Et je voulais m'approcher à ça le plus possible et j'ai senti que j'ai atteint cet objectif d'une certaine façon, à un certain niveau. Et voilà. J'avais toujours pas un boulot là-bas, il n'y avait pas de boulot. Je gagnais très peu d'argent aussi. C'était une vie assez difficile, très compliquée. Très compliquée, très compliquée.
À quelques semaines seulement du scrutin, les espoirs étaient désormais sans limite. Ça allait certainement être un moment unique du point de vue de l'actualité. Le monde se penchait rarement sur le destin du Congo, à moins que la guerre ne s'embrase, mais le pays allait pour une fois prendre de l'importance. Je sentais qu'il fallait que j'en profite. L'Associated Press m'appela pour m'informer que des correspondants expérimentés allaient arriver de Londres, du Caire et de Johannesburg. Sans autre forme de procès, on me transmit une liste de sujets auxquels je n'avais plus le droit de toucher. C'était donc comme ça que ça se passait. Le Congo faisait enfin la une de l'actualité internationale et j'étais maintenant de trop.
Se wati bi atene igui fono na yaji bangi la somoye ke ba zokela na atandele ko somoye ke nyongu ti kodoro hita timbi la somoye ke nyongu so avuru pendere mingi kangoya ema makana kangoya zoti kangoya ema makana kangoya kangoya ema makana kangoya zoti kangoya ema makana kangoya. Kozo tene isi kai gai loti na meni kete nganda Mubakba jazwa ke tole tala na gbetila Ala kenyo yeso wa munjua iri ni vende palme Ayo ita timbe muga musukula betimo Kangoya, ema makana kangoya Zoti kangoya, ema makana kangoya Kangoya, ema makana kangoya Zoti kangoya, ema makana kangoya.
L'atelier des médias.
Après un an et demi au Congo, Anjan Sundaram quitte Kinshasa épuisé. Il ne le sait pas encore, mais son aventure africaine ne fait que commencer.
En 2006, je suis parti en Inde J'ai commencé à écrire ce livre sur le Congo, c'était quand je suis parti du Congo que j'ai eu l'idée d'écrire quelque chose, d'écrire un livre. Et j'ai commencé à écrire des premières pages en Inde. Et de l'Inde, j'ai passé aux États-Unis pour travailler aux États-Unis pendant 2 ans. Après 2 ans de travail aux États-Unis, on m'a offert un boulot au Rwanda pour former des journalistes rwandais. Et je cherchais à quitter les États-Unis pour pouvoir écrire mon livre sur le Congo. Et je ne suis pas américain, je n'avais pas le droit de rester aux États-Unis après avoir quitté mon boulot. Alors je cherchais un endroit où m'installer, où je pourrais créer comme une sorte de maison avec de la stabilité. Congo n'était surtout pas l'endroit pour ça, c'était tellement chaotique. Mais le Rwanda me paraissait un bon endroit où me situer pour écrire ce livre. Alors je suis parti au Rwanda avec cette offre de l'ONG européen et financée par l'Union européenne et l'Angleterre pour former des journalistes rwandais. Et pour moi, le Rwanda était tout simplement un endroit où j'allais écrire mon livre sur le Congo. J'allais former des journalistes rwandais pour gagner un peu d'argent, pour gagner ma vie. Et j'allais passer la plupart du temps en écrivant. La média internationale décrit le Rwanda comme un succès, donc comme un pays qui a réussi depuis le génocide, qui s'est reconstruit. Et j'avais cette image en tête quand je suis parti à Kigali. Au Congo, j'avais vu des fosses communes laissées par des forces rwandaises pendant la guerre du Congo en 1996 et 1998. Alors j'avais une idée de qu'est-ce que le Rwanda, de la violence que le Rwanda a perpétrée au Congo. Mais au Rwanda, à l'intérieur du Rwanda, j'avais l'impression que c'était un pays en harmonie, en paix, où l'économie augmentait et où les gens étaient plutôt contents avec la direction que leur pays prenait depuis le génocide. C'était avec cette impression que je suis arrivé à Kigali.
J'avais passé l'après-midi à expliquer à ma classe comment construire le début d'un papier d'actualité. C'est un bref paragraphe qui doit contenir les informations essentielles et accrocher le lecteur. Pendant le cours, nous avons appris que le gouvernement allait fermer le journal dirigé par Jean Bosco. Un de mes étudiants passé à tabac par les forces de l'ordre est tombé dans le coma. Jean Bosco n'était pas en cours ce jour-là. Plusieurs élèves n'en revenaient pas. Moins d'un mois plus tard, nous apprenions que Jean Bosco avait été à nouveau menacé. Les agents du gouvernement l'avaient suivi et lui avaient dit d'arrêter d'enquêter. Il devait aider le gouvernement, sinon il le liquiderait. Il s'est enfui.
Je suis arrivé pour former ce cours, cette classe d'une douzaine de journalistes rwandais. Et j'avais la chance, on pourrait dire, de former parmi les dernières journalistes indépendantes au Rwanda. Une classe des hommes et des femmes, journalistes de la presse écrite surtout, qui étaient très très courageux, qui avaient subi des attaques, des assauts des autorités rwandaises pour exercer leur métier comme journaliste. Et c'était en travaillant avec eux, j'étais leur formateur d'une certaine façon officiellement, mais ils m'ont beaucoup, beaucoup appris du journalisme, du courage que le journalisme, le vrai journalisme, prend. Parce qu'ils étaient prêts à tout sacrifier. Il y avait un journaliste, je me souviens, Jean Bosco Gassassira, pendant un de mes premiers cours, il m'expliquait comment, pendant une conférence de presse présidentielle, il a évoqué l'harcèlement des journalistes au Rwanda. Et la police et l'armée l'ont tellement battu qu'il est tombé dans un coma. Un autre journaliste, Agnès, était allé en prison après avoir critiqué le gouvernement rwandais et le président Paul Kagame. Et elle était malade avec le VIH. Et les officiers du prison ne le laissaient pas dormir. Ils l'harcelaient pendant toute la nuit. En la forçant de se maintenir debout, en l'empêchant à dormir, jusqu'à ce qu'elle craquait. Mais comme le jour où elle est sortie de prison, elle a recommencé le journalisme. Et ce genre d'engagement prend beaucoup, beaucoup de courage. Et j'étais vraiment impressionné par l'engagement des journalistes rwandais. Et c'était à travers eux que j'ai commencé à comprendre l'autre côté du Rwanda, le côté un peu noir, le côté qui n'était pas rapporté dans la presse rwandaise ou la presse internationale, le côté qui ne sortait pas, les abus du gouvernement, la pauvreté, la violence du gouvernement que les Rwandais subissaient quotidiennement. Si ce n'était pas pour les journalistes rwandais, mes étudiants rwandais, mes étudiants et mes collègues, j'aurais pas connu ce côté du Rwanda. Et j'aurais passé 5 ou 10 ans au Rwanda sans comprendre comment les gens vivaient réellement et en croyant que le Rwanda était une histoire de succès, un pays où tout allait assez bien.
Mauvaise nouvelle, les derniers journalistes d'une dictature. Anjam Sundaram. Un journaliste avait qualifié le président de sociopathe dans un journal rwandais. L'article critiquait Kagame avec des passages au vitriol écrits par un journaliste frustré. Les circonstances dans lesquelles l'article avait été publié n'étaient pas claires. On ne savait pas si c'était une erreur ou si le chef d'édition était complice. Les journalistes paniquèrent. Ils avaient si peur qu'ils réimprimèrent un autre journal rempli d'articles bourrés de flatteries et d'admiration pour le président. En une figurait une image du président avec un journaliste. Le titre était « Désolé ». Le président était debout, le bras tendu et la main ouverte. Le journaliste, les mains jointes, s'inclinait devant lui. C'était la fin de la liberté.
J'avais un étudiant que j'appelle dans le livre Gibson, un étudiant de mes étudiants préférés, on pourrait dire, qui critiquait le gouvernement. Et après avoir critiqué le président, Paul Kagame, il a été poursuivi par les autorités au Rwanda. Au début, j'ai commencé à l'aider juste comme ami, parce qu'on était collègues, j'avais de l'affection pour lui, je ne voulais pas lui voir dans une mauvaise situation. Alors je lui ai caché chez moi, dans ma maison, à Kigali. Et finalement, je lui ai aidé à quitter le pays, à fuir le Rwanda. Et après sa fuite, j'ai commencé à comprendre que la presse était en attaque au Rwanda. Le gouvernement attaquait la presse. Le gouvernement détruisait la presse au Rwanda petit à petit. Et un par un, mes étudiants étaient mis en prison, ont fui le pays. Un de mes collègues a été tué par balle le même jour qu'il a critiqué le président. Et au bout de 2 ans, en 2011, j'ai réalisé que la presse rwandaise était totalement détruite. Il n'y avait plus une presse indépendante au Rwanda. Et le gouvernement, le discours officiel du Rwanda, était le seul discours dans le pays. C'était le seul discours qui était rapporté, qui était répété, non seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger. Et c'était à ce moment que j'ai réalisé que pendant mes 2 ans, que je voulais passer en tranquillité, j'ai été témoin à la destruction de la presse d'un pays. Et c'était à ce moment que j'ai décidé d'écrire ce livre. Je pensais que ce livre était nécessaire à écrire. Et je savais, comme j'ai vécu en total 5 ans au Rwanda, presque 5 ans. Et depuis mon enfance, depuis l'âge de 10 ans, c'était la première fois pour moi que j'ai vécu dans un pays pendant 5 ans. C'était la première fois que j'ai connu la sens d'avoir une maison, d'avoir un chez-moi, de construire un chez-moi, de me sentir chez moi. Et pendant toute ma jeunesse, j'ai bougé tellement. La décision d'écrire ce livre impliquait que mon départ du Rwanda. Je savais en écrivant ce livre que j'allais laisser derrière le Rwanda, toutes mes amies que j'avais fait là-bas, toutes mes relations. C'était une décision assez difficile dans ce sens. C'était pas une décision simple. Mais parce que j'adorais ma vie au Rwanda, j'adore mes amis, j'ai vraiment construit des relations importantes à moi là-bas. Et il fallait tout laisser derrière en écrivant ce livre. Et je savais que ça serait le prix de publier ce livre. Mais en même temps, j'étais témoin à tellement de choses. J'avais la possibilité de dire des choses qui étaient trop dangereuses pour les Rwandais. Et les Rwandais risquaient leur famille, leur vie. Moi, je risquais juste de ne plus avoir la possibilité de retourner au pays.
Anjan Sundaram a déjà écrit 2 ouvrages sur ses expériences en Afrique. Le premier, publié en 2013, a pour titre « Stringer, a reporter's journey in Congo », pigiste, le voyage d'un reporter au Congo, en traduction littérale. La version française de cet ouvrage, publié en 2017 chez Marchiali, s'intitule « Kinshasa jusqu'au cou ». Son second livre est consacré à la liberté de la presse au Rwanda. Il a été publié en 2016 chez Bloomsbury. Il a pour titre « Bad News, Last Journalist in a Dictatorship », mauvaise nouvelle, les derniers journalistes d'une dictature. En ce moment, Anjan est en train d'écrire un livre sur un séjour qu'il a effectué il y a 4 ans en République centrafricaine.
Oui, j'ai passé très peu de temps comparé au Congo et au Rwanda. J'ai passé juste 3 semaines en Centrafrique, mais c'était 3 semaines assez importantes pour le pays. 3 semaines avant le début de, comment on dit ça, nettoyage ethnique en Centrafrique. Le nettoyage, un mot assez banal pour décrire une situation tellement violente, des musulmans, la communauté musulmane en Centrafrique. Et je décris cette période où très peu de journalistes parcouraient le pays. Mais j'ai eu la possibilité, l'opportunité de traverser le pays assez extensivement et voir la montée d'une situation, on pourrait dire, génocidaire, ce que les journalistes voient assez rarement. Souvent, nous, les journalistes, on arrive une fois que la tuerie a commencé, la violence a commencé, ou la plupart du temps, trop tard, après tout est fini. Et en Centrafrique, j'avais eu l'occasion et la chance, dans quelque sens, d'arriver avant le début de la guerre, avant le début de la nettoyage ethnique. Et dans ce livre, j'essaie un peu d'écrire les conditions qui mènent à un tel nettoyage, les conditions qui mènent à une communauté attaquer un autre, déshumaniser une autre communauté. Et l'attaquer comme l'ennemi, le décrire comme l'ennemi. Parce qu'avant, les musulmans et les chrétiens en Centrafrique vivaient plutôt en harmonie. Les musulmans étaient plutôt des commerçants et les chrétiens étaient... les chrétiens font la majorité du pays. Mais pendant cette guerre, les musulmans ont été déshumanisés, décrits comme des animaux. Et finalement chassés comme les animaux et tués en large nombre. Et voilà, je décris un peu ce parcours. C'est un livre du correspondance de guerre un peu pur qui aussi donne une perspective sur la presse, parce qu'en Centrafrique, très peu de massacres étaient rapportés. À Bangui, les radios diffusaient plutôt la musique pop, faute d'avoir des nouvelles sur les massacres. Les Centrafriques étaient trop peureux à entrer dans des zones de guerre, des villages qui étaient attaqués, incinérés, brûlés, détruits. La situation était tellement violente que le journalisme est devenu un métier très, très dangereux. Alors, c'est une autre situation où on pourrait voir l'importance en 20e siècle, 21e siècle, du journalisme. Je me souviens, je pourrais continuer, mais... Je me souviens, j'étais avec un prêtre polonais et tous les deux, il m'a pris dans son camion et on est entré dans la zone de guerre pour parcourir les villages attaqués, brûlés. Et les villages étaient totalement vides. Et à chaque village, il arrêtait son véhicule, il klaxonnait. Et du jungle, du forêt, il y avait un ou deux Centrafricains qui couraient avec un petit papier avec une liste des gens tués, attaqués, malades, presque morts, qui avaient besoin de médicaments, qui avaient besoin d'aide. Et à chaque village, on prenait ces papiers et on retournait à la ville pour présenter ces papiers aux soldats français. et aux ONG qui étaient là sur la site. Et c'était incroyable dans le 21e siècle, l'âge d'information, que c'était comme ça qu'il fallait recueillir l'information de la guerre, les besoins de la population. Il n'y avait pas d'électricité, c'était vraiment comme qu'il y a 3 siècles ou quelque chose comme ça. Et je crois même les journalistes étrangers, internationaux, on ne comprend pas combien d'endroits il y a au monde qui sont déconnectés comme ça, combien de communautés qui sont tuées, attaquées, et on ne connaît rien du tout.
Anjan Soundaram était interrogé par Constance Léon de l'Atelier des médias. Atelier des médias, une émission préparée et proposée par Marie-Stéphanie Servos, Constance Léon, Camille Deloche, Léo Caravagna, Simon Decreuse et Ziad Malouf. Merci à Anjan Soundaram pour sa disponibilité. Merci aux éditions Marchali. Salut à toutes et à tous.